Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. On appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Voilà, on se retrouve. Et on va faire un voyage que nous n'avons pas fait depuis longtemps. Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé d'Afrique à Contre-Histoire. Alors on y va. Quand on parle d'Afrique, on parle souvent de politique dirigée par l'Europe et par la France en particulier. Alors aujourd'hui, ce n'est pas trop la France qui est en cause, mais un petit peu quand même. On va parler du Congo, de la République dite démocratique du Congo, ex-Zaïre. Alors, il y a eu des élections qu'on a attendues longtemps, on a attendu pendant 2 ans, des élections présidentielles et législatives, qui se sont donc fait désirer et on pensait que Kabila allait se représenter en opposition flagrante, en violation flagrante de la constitution du pays. Eh bien non, figurez-vous, Joseph Kabila ne s'est pas représenté. Et ça a donné une élection tout à fait particulière, enfin on n'était pas habitué, à tout point de vue, et vous allez voir comment ça s'est déroulé. Alors pour ça, on va remonter un petit peu en arrière. Les élections ont eu lieu le 30 décembre 2018, et j'ai un article de Fanny Pigeot qui écrit dans Mediapart et qui est autrice de nombreuses études sur les politiques africaines. Elle sait très bien de quoi elle parle et elle a dressé quelques pages pour nous sensibiliser à l'ambiance dans laquelle l'élection du nouveau président s'est trouvé. comment ça s'est passé, l'ambiance du pays, etc. Et puis la liste des candidats et de leur soutien. Alors voilà ce que nous dit Fanny Pigeot sur Mediapart. La République démocratique du Congo organise dimanche 30 décembre ses élections générales dans un contexte tendu. Joseph Kabila quitte la présidence après avoir profondément modifié le rapport de force entre son pays et l'Occident. Joseph Kabila, 47 ans, a finalement tenu parole, après avoir joué les prolongations pendant 2 ans. Conformément à la Constitution, il ne se présente pas à l'élection présidentielle qui a lieu ce dimanche 30 décembre en République démocratique du Congo, RDC, en même temps que des législatives et des provinciales. Il a passé près de 18 ans au pouvoir, à la suite de son père Laurent Désiré Kabila, assassiné en janvier 2001. Bien qu'il s'agisse de la première transition politique se déroulant sans coup d'État ni guerre depuis l'indépendance en 1960, le climat est tendu. À l'origine, prévue pour le 23 décembre, ces élections générales ont été in extremis reportées pour des raisons dites techniques par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, laquelle s'est attirée de nombreuses critiques. La CENI a refait monter la tension en annonçant que le vote n'aurait pas lieu dans 3 villes, Yumbi à l'ouest, Beni et Butembo à l'est, en proie à des troubles sécuritaires et à une épidémie d'Ebola, mais qu'il s'y tiendrait en mars 2019, ce qui pose un gros point d'interrogation au mois de mars. Environ 1 million d'électeurs sur 40 millions ne se rendront donc pas aux urnes ce dimanche 30 décembre. L'opposition soupçonne la CENI de chercher à favoriser le candidat de la coalition au pouvoir, Chadari, Emmanuel Ramazani Chadari, 58 ans, qui est un ancien député, ancien ministre de l'Intérieur et ex-gouverneur de province. Un de ses principaux adversaires, parmi 20 autres candidats en lice, est Martin Fayoulou, 62 ans. Choisi le 11 décembre pour représenter une alliance de partis, la Lamouka, à l'issue d'une réunion en Suisse facilitée par un ex-cadre britannique de l'ONU. Fayoulou, qui a longtemps travaillé pour le groupe pétrolier américain ExxonMobil, était jusqu'à là quasiment inconnu sur la scène politique nationale, mais il a le soutien actif des Occidentaux. Autre concurrent sérieux, Félix Tshisekedi, 55 ans, qui a quitté Lamouka aussitôt après la désignation de Fayoulou. Il se présente pour l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, longtemps présidé par son défunt père, Étienne Tshisekedi. Joseph Kabila se retire en laissant la RDC, la République démocratique du Congo, pays vaste comme un continent, dans une situation difficile, mais tout de même un peu meilleure par rapport à celle qui prévalait en janvier 2001. Ainsi, il n'est plus question de guerre contre des puissances étrangères occupant une partie du territoire, comme c'était le cas à la mort de Kabila père. D'importants foyers d'instabilité subsistent pourtant, en particulier dans l'Est, où des groupes armés, nés de manipulations à la fois locales et nationales, pillent et tuent des civils. On parle de 4 millions de personnes déplacées par les violences incessantes. Sur le plan économique, il y a eu quelques progrès. Si le produit intérieur brut national a augmenté au fil des ans, la croissance reste instable en raison des fluctuations des cours mondiaux des prix des matières premières, dont la RDC est dépendante. Elle a été de 3,4% en 2017, après une chute de 6,9% à 2,4% entre 2015 et 2016. Ses performances ont été insuffisantes pour diminuer le taux de pauvreté, toujours élevé malgré une légère amélioration. Il est de 64% contre 71% en 2005. Le pays, qui compte 80 millions d'habitants, était classé en 2017 au 176e rang sur 188 de l'indice de développement humain de l'ONU. Les besoins en infrastructures sont immenses. Seuls 15% de la population a accès à l'électricité. La corruption demeure un problème majeur, a reconnu Joseph Kabila dans un entretien avec le quotidien belge Le Soir, début décembre 2018.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au nom de Messieurs Joseph Kasavubu, Président de la République du Congo, Monsieur Adoula, Premier ministre de la République du Congo, Monsieur Zizenga, Vice-Premier ministre de la République du Congo, Monsieur Bomboko, Ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, Monsieur Ileyo, Ministre de l'Information de la République du Congo, et le Général Mobutu de l'Armée nationale congolaise, nous vous offrons un cha-cha-cha intitulé Kubaila Begen. Merci. Au revoir.
L'évolution la plus marquante des 18 années de règne de Joseph Kabila est sans doute la prise de distance qu'a réussi à opérer Joseph Kabila vis-à-vis des pays occidentaux. Kinshasa s'est peu à peu affranchi de leur tutelle en créant des alliances durables avec l'Angola et l'Afrique du Sud et en intensifiant ses relations avec la Chine. Moi, je mettrais plein de points d'interrogation, là. Les liens avec la Belgique, ex-puissance coloniale, et l'Union européenne se sont de ce fait réduits et crispés. Le gouvernement congolais n'hésite pas à répliquer lorsqu'il estime qu'elles font de l'ingérence dans les affaires internes du pays. Il a par exemple donné 48 heures à l'ambassadeur de l'Union européenne pour quitter la RDC en riposte à la décision européenne de maintenir ses sanctions prises en 2016 contre 14 personnes, dont Emmanuel Ramazani Shadary. L'Union européenne accuse les personnalités visées d'avoir entravé le processus électoral et d'être responsable de violations des droits de l'homme commises en 2015 lors des manifestations organisées contre le report de la présidentielle. Joseph Kabila a aussi bousculé les intérêts des entreprises qui opèrent dans le secteur minier et sont majoritairement occidentales, bien sûr. Le sous-sol de la RDC, immensément riche en divers minerais, représente une source d'approvisionnement essentielle pour ces multinationales. Gros producteur de cuivre, le pays détient par exemple 50% des réserves de cobalt de la planète et assure 60% de la production mondiale de ce minerai utilisé pour fabriquer les batteries de smartphones et de véhicules électriques, dont on reparlera. Grâce à un code minier conçu par la Banque mondiale, les entreprises multinationales ont bénéficié, entre 2002 et 2018, de dispositions très généreuses à leur égard. Le taux des redevances qu'elles devaient payer à l'État était seulement de 2 petits pourcents, alors que celui pratiqué pour le cuivre en Zambie est de 6% et au Chili de 14%. Le montant de leurs bénéfices a été par conséquent élevé, et celui des recettes revenant à l'État très bas. Et ce, d'autant plus que les entreprises n'ont pas respecté l'obligation de rapatrier en RDC 40% de leurs recettes d'exportation. Alors, souhaitant rééquilibrer la situation, le gouvernement a révisé ce code minier en 2017, faisant passer les redevances à 3,5% et même jusqu'à 10% pour les produits jugés stratégiques, comme le cobalt, et en instaurant un impôt de 50% sur les superprofits. L'affaire a été jugée suffisamment grave par les multinationales pour que les patrons de 7 d'entre elles, dont Glencore, Randgold Resources et AngloGold Ashanti, se rendent à Kinshasa en mars 2018 afin de convaincre Kabila de renoncer à ces modifications. Bernique, le chef de l'État, a promulgué le nouveau code minier quelques jours après. Le rapport de force instauré par Joseph Kabila ne changera pas en cas de victoire d'Emmanuel Ramazani Shadary, qui mène depuis déjà un an une campagne discrète sur le terrain et bénéficie d'une machine politique puissante. Des analystes affirment d'ailleurs que Kabila, si ce scénario se réalise dans les coulisses, restera dans les coulisses du pouvoir, et qu'il voudra revenir à la présidence selon un schéma connu Poutine-Medvedev lors de la prochaine élection. L'intéressé a nié avoir un tel projet. En se focalisant sur ce que Kabila va faire ou pas, on personnalise la question du pouvoir et on oublie qu'il n'a pas gouverné seul, estime pour sa part une source diplomatique. Laquelle précise Shadary est soutenu par les mêmes personnes qui ont pris le pouvoir à la fin de Mobutu et ont entouré Kabila père, puis Kabila fils, depuis ses débuts. Il s'agit de gens qui ont été en général éduqués au Congo et dont les rapports avec l'Occident et la Belgique sont ténus. Ils ont souvent un ancrage local et régional solide et ont un parcours tant dans l'administration que la politique parlementaire. Tant que leur alliance tient, ces gens sont au pouvoir encore pour longtemps, avec ou sans Kabila. Et Fanny continue. Il faudra attendre au moins le 15 janvier 2019 pour voir si ces prévisions se réalisent. Les résultats définitifs de la présidentielle seront promulgués ce jour-là. Le nouveau président devra prêter serment 3 jours après, à condition évidemment que des troubles ne fassent pas déraper la fin du processus électoral, comme le craignent certains observateurs.
get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight.
You preacher man, don't tell me heaven is under the earth. You are dopey and you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold, and half a story has never been told. So now we see the light, we gonna stand up for our rights. Come on,
get up, stand up.
Brothers,
stand up for your rights.
Come on,
get up, stand up.
Sisters,
don't give up the fight.
I'm begging you to
get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up.
I said don't give up the fight. Cause you know most people think a great God will come from the skies and take away every little thing and left everybody dry. But if you know what life is worth, look for yours right here on earth. And now we see the light, we gonna stand up for our rights. Come on,
get up, stand up.
Don't make them push you around.
Stand up for your rights.
Come on, brothers,
get up, stand up.
Be brave now,
don't give up the fight.
I say
get up, stand up. Stand up for your rights. Stand up.
Don't give up to the fight. Sick and tired of this game of technology. Humbly asking Jesus for his mercy. We know and we understand. Almighty Jah is a living man. You fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. And now we see the light.
Voilà donc le tableau que nous a dressé Fanny Pigeot au mois de décembre, juste avant les élections. Maintenant, je vais vous transmettre les nouvelles du monde diplomatique. Que croyez-vous qu'il arriva ? Ce ne fut pas le gagnant qui gagna. On pourrait appeler ça aussi « Vive la défaite ». Et le Diplo appelle ça, au Congo, le candidat battu est élu. C'est un article de François Missère. Organisées avec 2 ans de retard, les élections en République démocratique du Congo se sont conclues par un arrangement politique sans rapport avec la réalité des urnes. Cet épilogue a suscité des divisions nouvelles en Afrique. Éclipsant les habituelles réactions de la communauté internationale, ces fractures éclairent les transformations politiques du continent. Une fois n'est pas coutume, la manipulation des élections générales du 30 décembre 2018 en République démocratique du Congo, RDC, a ouvert une fracture en Afrique. D'un côté, ceux qui voulaient faire prévaloir la vérité des urnes, de l'autre, ceux qui privilégiaient la décision souveraine du pays, au premier rang desquels l'Afrique du Sud. Inédit, ce clivage, qui révèle les nouveaux rapports de force sur le continent et les débats qui le traversent. L'annonce des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, le 10 janvier 2019, a immédiatement suscité la polémique. Après avoir demandé un nouveau décompte des voix, l'Union africaine a dû s'incliner devant le verdict du Conseil constitutionnel le 20 janvier. Contre l'évidence, M. Félix Tshisekedi, candidat de la coalition CAP pour le changement, CACH, a été proclamé vainqueur avec 38,57% des voix, devant celui de l'autre coalition d'opposition, la Mouka, réveillez-vous, M. Martin Fayoulou, 34,83%, et le dauphin du président sortant Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Chadari, 23,84%, à l'issue de ce scrutin uninominal à un tour. Sur le fond, le doute ne semble pourtant pas permis. Dans un rapport publié le 18 janvier, la très bien renseignée et respectée Conférence épiscopale nationale des évêques congolais dévoilait, sur la base d'un échantillon représentatif de 13 100 000 électeurs, un podium très différent. Fayoulou, 62,11% des voix. Tshisekedi, 16,93%. Et enfin, Ramazani Chadari, 16,88%. La méthode utilisée pour ce comptage a fait ses preuves au Ghana, au Nigeria, en Tunisie, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, de 2011 à 2015.
Lâche collective, presque addictive. On lâche la barre, on part à la dérive. Nos cerveaux que des menteurs lessivent. On mal à l'honneur quand le souvenir arrive. Il faut bien vivre, mais l'autre rive crève. Au lieu d'ouvrir le dossier, on nous sert des brèves. La vie de tête à claque gavée par les grèves. De l'info pour faire diversion sans trêve. Mais le navire a des trous dans la cale. Des brèches sévères où le colon empale. Sur ces crimes, on déploie des rideaux. Mais gare, car le bateau se remplit d'eau. D'une tactique à l'autre, le mental dénie cette immonde trace des textes. Mais tout ça s'éclaircit toujours quand l'âme lâche ce qui la brûle. Mémoire mauvaise, le temps passe. Mémoire mauvaise, signe ton score. Choisis plus les chapitres et donne ce que tu gardes secret. Puis ton scandale à vous de méfier. Le bateau coule, il a la coque fendue. Le bateau coule, il est perdu. Mémoire mauvaise, dicte tes méfaits ou mais ton dernier coup de fouet. C'est les premiers pas en terres indigènes. Des catholiques et des protestants viennent. Pavés des bonnes intentions du début, ils disaient apporter la parole de Jésus. Jusqu'à l'heure de l'ère industrielle, des besoins illimités de la métropole. Plus question de convertir les âmes, on se mit à dire qu'ils n'étaient pas des hommes. Et ce fut chaîne et coup de fouet, travaux forcés, la mise à mort menaçant l'ouvrier. Commerce d'esclaves et caution morale, on admit l'horreur comme tout à fait normal. Darwin Gobineau mettant la science à leur sauce, le racisme était une théorie en place. La bourgeoisie d'Europe allait prospérer, c'est loin d'être fini, que faut-il espérer? Mémoire mauvaise, le temps passe. Mémoire mauvaise, signe ton score. Choisis plus les chapitres et donne ce que tu gardes secret. Puis ton scandale à vous de m'aider. Le bateau coule, il a la coque fendue. Le bateau coule, il est perdu. Mémoire mauvaise, dicte tes méfaits ou mais ton dernier coup de fouet. Thank you.
colonisé. Au nom de l'évangile, on a mutilé. Sait-on vraiment ce qui a pu se passer? Le pourquoi du comment des atrocités? Peut-on vivre longtemps dans la négation? Pourquoi parler de civilisation? Expliquer ce qu'étaient les travaux forcés. Tous les membres coupés, les filles violées, la chicotée, les camps de concentration, les vols et les plans d'extermination. Pourquoi vouloir ainsi tenter d'oublier les récits de traitants bateaux négriers? On nous dit que ces crimes sont révolus, pourtant l'exploitation ne s'arrête plus. Les grandes firmes pour produire en secret se servent de la misère qu'elles-mêmes créent. Jamais nous ne pourrons le réaliser, ni même envisager de cicatriser, tant que les mensonges du présent seront irrémédiablement enfouis dans notre
mémoire mauvaise. Le temps passe, mémoire mauvaise. Signe ton score, choisis plus les chapitres et donne ce que tu gardes secret. Pète ton scandale à vous tes méfaits. Le bateau coule, il a la coque fendue. Le bateau coule, il est perdu. Mémoire mauvaise, dis tes méfaits ou mets ton dernier coup fouet.
Le résultat officiel a en fait été négocié, au dernier moment entre Kabila et Tshisekedi. Confronté à l'échec de son dauphin, Kabila a préféré trouver un accord avec celui qui n'est arrivé qu'en deuxième position, en lui concédant son fauteuil, tandis que les élections législatives, organisées en même temps et validées par la CENI, accordaient aux partisans du président sortant une confortable majorité de plus de 300 députés sur 500. Moins brillant et charismatique que son père Étienne, figure de la vie politique congolaise mort en 2017, Tshisekedi apparaît plus malléable que son concurrent arrivé en tête. Sans ressources financières ni diplôme, il avait plusieurs fois tenté des rapprochements avec le camp de Kabila. À l'inverse, Fayoulou, ancien cadre d'ExxonMobil, à la carrière politique sans compromission, ni avec le régime de Joseph Mobutu, qui régna sur le pays de 65 à 97, ni avec la dynastie des Kabila, il semblait incontrôlable. Le soutien que lui apportaient deux personnalités très populaires, l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, et l'ancien vice-président, Jean-Pierre Bemba, augmentait encore sa capacité de nuisance. Le choix du pouvoir s'est imposé rapidement. Fait nouveau, sur un continent où les autorités couvrent souvent d'un voile pudique les manipulations électorales, une circonspection inhabituelle a accueilli cet arrangement improbable. Un débat à distance concernant l'attitude à adopter s'est engagé entre les autorités congolaises, les organisations continentales et des puissances régionales comme l'Afrique du Sud. Dans ce dialogue interafricain, les critiques sur les chiffres officiels émises par le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian sont rapidement passées au second plan.
De quoi il se mêle celui-là ?
Waribana, waribana, bere ya bebe kan. Si kribe kouma, tais-toi, doula. Kribe kouma, tais-toi, pété. Kribe kouma, tais-toi, baoulé. Ni kribe kouma, donne tais-toi, pour le temps. Les militaires sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les policiers sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les professeurs sont fâchés. Leurs trois syndicats bafoués. Les étudiants sont fâchés. Ils veulent plus de liberté. Papier Longuet, les Mouroudis, parce qu'ils ont été cognés. Les médecins sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les ouvriers sont fâchés parce qu'ils ont été compressés. Le gouvernement est fâché. Les caisses de l'État vidées, vidées. Baribana,
Baribana,
Baribana, Bereya bébé quand. Baribana,
Baribana,
Bereya bébé quand. Baribana,
Baribana,
Abana, Bereya bébé quand. Baribana,
Baribana,
Bereya bébé quand. Chassa yatra, Adisa de Batra Bata. O Abidjan yatra, a Cotonou yatra, a Bamako tra Bata. Baribana,
Baribana,
Bereya bébé quand. Baribana,
Baribana,
Bereya bébé quand. Baribana,
Baribana,
Abana, Bereya bébé quand. Baribana,
Baribana.
Après la publication des résultats provisoires, le 10 janvier, le président de la Communauté de développement d'Afrique australe, la CDAA, dont fait partie la République démocratique du Congo, le chef de l'État zambien, M. Edgar Lungu, a émis publiquement de sérieux doutes et estimé qu'un recomptage permettrait de rassurer à la fois les vainqueurs et les perdants. Dans la foulée, le président de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, dont la RDC fait aussi partie, le dirigeant du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a conseillé à Kinshasa d'envisager le décompte des voix afin de garantir la transparence des résultats. Alors pour celui-là, je dirais la même chose que tout à l'heure. Hein. Si quelqu'un n'a pas le droit de parler de démocratie, c'est sûrement Sassou Nguesso. De son côté, l'Union africaine a fait part de ses réserves et annoncé son intention d'envoyer à Kinshasa le 21 janvier une délégation conduite par son président, le chef de l'État rwandais Paul Kagame. Seule voix discordante, et non des moindres, dans ce concert de réactions sceptiques, celle du président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a immédiatement félicité les parties congolaises d'avoir garanti un processus électoral pacifique, sans ingérence ni pression. Le 14 janvier, la ministre des Relations internationales et de la coopération sud-africaine, Mme Lindiwe Sisulu, appelait la communauté internationale à respecter les processus internes légaux. Le 20 janvier, veille de la visite annoncée d'une délégation de l'Union africaine, la Cour constitutionnelle congolaise sifflait la fin de partie en proclamant la victoire définitive de Tshisekedi. À la suite de l'Afrique du Sud, tous les pays africains ont alors reconnu le nouveau chef de l'État congolais. Choquante du point de vue des valeurs démocratiques, cette victoire du fait accompli s'explique par l'histoire mouvementée et douloureuse de la République démocratique du Congo. Le pays n'a pas connu d'alternative démocratique depuis son indépendance en 1960, un an avant l'assassinat du Premier ministre Patrice Lumumba par les services secrets belges. Alors que selon la Constitution, Kabila, au pouvoir depuis 2001, aurait dû quitter le pouvoir en décembre 2016, l'élection présidentielle a été repoussée durant 2 ans, officiellement en raison de problèmes matériels. Dans un tel contexte, la tenue, même contestable, du scrutin peut apparaître comme un soulagement. En attendant mieux. face à l'impératif démocratique, c'est le souci de sauvegarder la stabilité de la RDC qui l'a finalement emporté. Par sa taille et sa situation au cœur du continent, ce pays revêt en effet pour toute l'Afrique une importance capitale, encore accrue par l'immensité de ses ressources. Premier château d'eau du continent, doté du plus grand potentiel hydroélectrique, premier producteur mondial de cobalt, producteur très important de cuivre. Il pourrait devenir une sorte d'Arabie saoudite du lithium, le métal employé dans la fabrication des batteries des voitures électriques. Mais ce géant économique porte encore les stigmates des deux conflits qui l'ont ravagé entre 1996 et 2002, impliquant les États voisins, Rwanda, Ouganda, Angola notamment, mais aussi des plus éloignés, Namibie, Tchad et Zimbabwe. Ils sont significativement qualifiés de guerre mondiale africaine. Les pays limitrophes en conservent la hantise qu'une dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire en RDC ne provoque un afflux de réfugiés chez eux. Et leurs craintes ne sont pas sans fondement. Dans les provinces du Kivu, l'instabilité provoquée par une myriade de groupes armés, nationaux et étrangers, mais aussi par des éléments indisciplinés des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, est telle que les opérations électorales n'ont pas pu se tenir partout. Dans les circonscriptions de Beni et de Butembo, au nord Kivu, le scrutin n'a tout simplement pas eu lieu. Au sud Kivu, les rebelles burundais des Forces nationales de libération affrontent de temps en temps l'armée de Bujumbura. Les travailleurs humanitaires estiment le nombre de déplacés intérieurs à plus de 4,5 millions, dont 1 300 000 dans la seule région du Grand Kasaï, au centre du pays, où les affrontements avec les FARC, les forces armées de la République démocratique du Congo, dont on a parlé à l'instant, auraient fait 3 000 morts depuis 2016. Quelques centaines de milliers d'habitants du Kasaï ont fui vers l'Angola, où les concessions diamantifères des provinces de Lunda Norte et de Lunda Sul ont été envahies par les garimpeiros congolais, chercheurs clandestins de pierres précieuses. Invoquant le droit de protéger ses ressources minières, Luanda a expulsé en septembre et en décembre 2018 plus de 400 000 personnes, en majorité congolaises, lors d'une opération baptisée Transparencia.
Jesus cured the blind man so that he could see the evils of the world. Perchance blind is but dark thought overcome by the light. Maybe Judas was the better man, and Mary made a virgin just a safe face. I too am so ashamed on my bended knees, praying to my pretty white jeans. They say you're the way, the light. The light is so blinding. Am I not to question? Your followers can get me. Your words are used to enslave me. Convinced himself of his wisdom to judge, to forgive, condemn. Mother Mary, full of grace, I'm so confused by his pale white face. God so loved the world, he gave his only son. While many mothers bear children, martyrs of grief and bitter love. While the so-called chosen, they make war, hey. So many die in the name of God, their faith at a close. They say you're the one.
Vous êtes toujours sur Canal Sud, et c'est toujours Contre Histoire, et nous sommes toujours au Congo. Issu de l'ethnie des Lubas du Kasaï, M. Tshisekedi suscite dans le pays l'espoir d'un règlement pacifique de cette crise. Fin janvier, moins d'une semaine après la prestation de serment du nouveau président, quelques 600 miliciens, reconnaissables au foulard rouge qui ceint leur crâne, ont déposé les armes. Fusils AK-47, fusils de chasse, machettes, bâtons, flèches, etc., etc. 20 fois moins peuplé que la RDC et ses 80 millions d'habitants, le Congo-Brazzaville surveille, comme le lait sur le feu, la situation sur l'autre rive du fleuve Congo. Hanté par le fantasme d'une vague de réfugiés qui le submergerait. La volonté de maîtriser les flux migratoires s'est déjà traduite par l'expulsion brutale de plus de 179 000 ressortissants de RDC en situation illégale lors de l'opération Mbata ya Bakolo, la gifle des aînés, en 2014. Cette crainte a été ravivée mi-décembre 2018 par les affrontements de Yumbi dans la province du Mai-Ndombe, où les opérations électorales ont été là aussi suspendues. Au moins 890 habitants auraient été tués et 16 000 personnes se sont réfugiées au Congo-Brazzaville, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce même souci de prévenir un exode en provenance de RDC existe au Rwanda, qui hébergeait fin décembre 2018 plus de 79 000 réfugiés congolais arrivés en plusieurs vagues. Dans ce billard à plusieurs bandes, l'Afrique du Sud joue sa propre partie. En validant le processus électoral congolais, elle réaffirme son attachement au principe de souveraineté des États et une diplomatie hostile à l'ingérence comme à l'impérialisme. Élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour 2019-2020, elle a, au nom du principe de non-ingérence, contribué à saboter la réunion organisée par la France le 4 janvier sur les élections en RDC, empêchant l'adoption d'un communiqué commun. Pretoria a reçu le soutien des deux autres membres africains de l'instance onusienne, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale.
Seems to me like they want us to be afraid, man. Maybe we just like being afraid. Maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us, part of our culture. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Just for like 2 months or something? Goddamn. Sick of that. Mic check. The groove is thick, so I'ma rhyme like a lunatic. I do this shit with an unassuming wit. The corporation conjured up the bass and the tempo. My name is Liv, that's the intro, now let's go. The flow of life throwing strife into the mix. To the pick, dark condition and the word is sick. The powers to be, a power in me. To speak upon stress and strife that I see every day. And launch a speaker bomb, culture of fear is up in your ear. They're telling us terrorists about to strike, maybe tonight, right? Let me just back up slowly with critical analysis of those who control me. It used to be we just had a screen in the crib on the TV, but now we carry screens when we leave. See laptops, smartphones, now we're never alone. A new affliction I call media dome. But on the low, famine is the programming. You wanna watch your favorite show because it's so slamming. Hold hands and let's gaze into the beautiful glare while we're here, so immersed in this culture of fear.
hardened visa won't allow me to breathe. They deceive, the enemy is in the fine print. They assassinate silent, with no single assailant. Walls, I'm scaling, to get a view of the blue sky. It's beautiful, then a couple choppers flew by. Dubai, represent an element, a hint, a sentiment that you feel on the low. For real, the deal starts with a smile, concludes with a handshake. Physical to alter your subliminal landscape. You leave thinking I can really trust that guy. To be honest, kid, you should've really punched that guy. Now it's Operation Shankabang. To repossess my home alone at night, sweating with visions of Armageddon. I never seen the threat, yet I feel threatened. Parts of our society designed to smear. Freedom, don't succumb to this culture of fear.
Cette attitude n'est pas exempte d'un certain cynisme. L'arrangement avec M. Tshisekedi maintient en effet l'influence de Kabila. Pendant 18 ans, le président congolais sortant fut un partenaire accommodant pour l'Afrique du Sud. En 2013, un traité international a alloué à la compagnie sud-africaine d'électricité Eskom plus de 2500 MW provenant du futur barrage d'Inga 3. Soit plus de la moitié de sa puissance. Kabila a octroyé à plusieurs sociétés sud-africaines des permis pétroliers sans appel d'offres. L'une d'elles a obtenu des concessions dans la cuvette du Congo, empiétant sur le parc national de Salonga. Deuxième fournisseur commercial de la RDC, tout produit confondu après la Chine, l'Afrique du Sud protège sa position. La quasi-totalité du cuivre et du cobalt congolais transite encore par les ports sud-africains, malgré la concurrence croissante des corridors du Benguela en Angola et de Walvis Bay en Namibie. Pour l'Union africaine, le dénouement du feuilleton congolais est incontestablement un camouflet. En 2002, lorsqu'elle succède à l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, créée en 1963, elle affirme que « des élections transparentes et crédibles constituent un élément clé permettant de garantir le droit fondamental et universel à la gouvernance participative et démocratique ». Elle prévoit même des missions d'observation chargées d'évaluer l'indépendance des commissions électorales nationales, le bon déroulement des scrutins et l'utilisation des fonds publics. Cependant, en pratique, dans la majorité des situations, elle préfère laisser ce rôle aux organisations sous-régionales. L'implication de l'Union africaine dans les élections congolaises représente donc une tentative inédite, mais avortée, de résolution de crise, sans doute liée à la personnalité de son président sortant, M. Kagame. Le chef de l'État rwandais reproche à Kabila d'accueillir des rebelles hutus sur son territoire. C'est sans doute pour se ménager ces bonnes grâces que Kinshasa a livré à Kigali le colonel Ignace Nkaka, porte-parole des forces démocratiques de libération du Rwanda, et le lieutenant-colonel Théophile Abega, chef des renseignements militaires de l'organisation rebelle, arrêté le 15 décembre par l'armée congolaise à Bounagana, dans le Nord Kivu. Tout le monde, en Afrique et ailleurs, s'accommode de la victoire d'un candidat qui n'a probablement pas rassemblé plus de 17% des voix. Mais la population congolaise va-t-elle accepter ce que M. Fayulu qualifie de « putsch électoral »? Wait and see, jusqu'en mars 2019. À bientôt. À samedi pour la rediffusion.